France Musique. France Musique, le casque et l'enclume, Lionel Esparza.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Casque et l'Enclume, votre podcast critique de France Musique consacré aujourd'hui à l'ange exterminateur, The Exterminating Angel, du compositeur britannique Thomas Hades, 53 ans, l'un des rares compositeurs aujourd'hui vivant à rencontrer un impressionnant succès, on va voir si c'est encore le cas, avec cette création à l'Opéra de Paris. Pourquoi je dis création, ce n'est pas une. Rappelons qu'il y a d'abord eu un film, Louise Buñuel, en 1962, devenu donc un opéra en 2016 au Festival de Salzbourg. À l'origine, c'était monté par le librettiste Tom Cairns, à Paris depuis le 29 février, mise en scène de Callisto Bieito. La direction musicale devait être confiée à Gustavo Dudamel, qui est parti, comme on sait, vers d'autres rivages. C'est donc le compositeur lui-même, Thomas Hades, qui a pris la baguette. Pour en parler aujourd'hui, Benoît Fauché de Diapason, Christian Merlin du Figaro et de France Musique, et Richard Marté d'Opéra Magazine. Thomas Hades, disais-je, eh bien voici un échantillon. It's an hour before the Duke comes. There's an hour before tea, 2 hours before dressing, 3 before cooking, 4 before dinner, and an age before bed. These hours to fill, eyes upon eyes, and nothing comes.
Did you hear?
Un extrait de Powder Face, le premier opéra de Thomas Hades en 1995. Alors l'argument de l'ange exterminateur, je vous le donne très rapidement, une quinzaine de bons bourgeois sortent de l'opéra, se retrouvent chez l'un d'entre eux pour souper, entre autres avec la diva de la soirée qui vient de chanter Lucia. C'est de la mise en abîme d'une certaine manière, sauf que par une mystérieuse impossibilité, on n'arrive pas à ressortir au terme des agapes. Tout le monde reste là plusieurs jours, à se dégrader, à se déchirer, à laisser libre cours aux plus vils instincts de l'homme et de la femme. Une sorte de décadence générale et accélérée, sans cause apparente. Autant dire que c'est du trash et du déglingué. Est-ce qu'il a aimé Benoît Fauché ?
Ah, j'ai adoré.
Ah !
Je veux dire, je vais régulièrement voir des créations lyriques.
Ouais.
On peut pas dire qu'on prenne un plaisir incommensurable chaque soir. C'est variable, hein. Ça peut être très réussi et ça peut être un ratage complet. Et là, c'est vraiment, c'est même pas de l'ordre du très réussi, c'est de l'ordre de l'exceptionnel. Des créations lyriques comme celle-ci, je pense que vous en voyez peut-être une par décennie. C'est à peu près de cet ordre-là. Alors là, effectivement, c'était pas une création, c'est une nouvelle production. Mais ce qui montre qu'un ouvrage, j'ai envie de dire, arrive à tenir le répertoire, c'est juste justement, est-ce qu'on arrive à en faire une nouvelle production, justement, qui marche et qui donne une autre lumière sur l'ouvrage ? Je n'avais pas vu la production de la création à Salzbourg, donc je venais avec un regard vierge sur tout ça, et je suis complètement tombé, effectivement, dans ce dérèglement généralisé de la société bourgeoise, tel que nous le racontait, effectivement, Louise Buñuel en 62, et tel que nous le raconte avec ses moyens exceptionnels, il faut bien le dire, Thomas Hades. Moyens exceptionnels, pourquoi ? Parce qu'il y a déjà un orchestre fabuleux, avec, comme il sait le faire, ces espèces de passacailles ou de chaconnes, ces progressions qu'il organise avec ces ostinatos là qui nous hantent en fait et qui nous saisissent et qui nous tiennent en haleine. En même temps, il ne laisse pas du tout de côté l'écriture vocale. Hein. Il arrive à régler pendant plus de 2 heures un espèce de grand ensemble dans lequel il met quand même en lumière des arioziaux, des duos. Donc il y en a pour tout le monde. Une quinzaine de rôles qui sont là en permanence, de la basse plutôt profonde jusqu'à la soprano coloratour stratosphérique. C'est très impressionnant, c'est très prenant et bah voilà, on est happé du début à la fin.
Christian Merlin, pareil.
C'est tout? Non, il faut que je développe, c'est ça. Non, mais c'est sensationnel. Et il se trouve qu'en plus, je sais pas vous, mais je sortais d'une période qui m'a paru longue, où j'étais allé plusieurs fois à l'opéra, et en sortant, j'étais soit bof, soit scrogneugneux. Mmh. Ce qui est quand même très frustrant. Ce que je voudrais mentionner, c'est que j'étais à Salzbourg en 2016, contrairement à Benoît. Et là, j'ai vraiment pris conscience combien, même pour une création, l'interprétation est absolument essentielle. Mmh. Quand on n'a pas de point de repère sur une œuvre, on attribue tout, qualité et défaut, à l'œuvre elle-même. Mais il y a la manière de la jouer. Et là, en l'occurrence, la mise en scène à Salzbourg de Tom Kerns était très décorative, très littérale, très lisse, un peu papier glacé, et pour moi, très très en retrait, en deçà du côté subversif de l'œuvre. Alors que là, avec Calixto Bieito, on a quelqu'un qui connaît par cœur son Buñuel et qui a su aller jusqu'au bout du message de l'œuvre. Et en plus, pour renchérir sur ce que disait Benoît, c'était déjà Thomas Hades qui dirigeait à Salzbourg, mais il avait l'orchestre de la radio autrichienne, qui est un orchestre correct, mais bon, voilà. Mmh. Alors que là, avec l'orchestre de l'opéra, il avait un instrument à sa disposition avec lequel on avait l'impression qu'il pouvait tout faire. Donc tout ça fait que c'est une grande, grande soirée.
Un opéra en création, un opéra trash en plus, je sens que Richard Marté va avoir détesté.
Non.
Non?
J'ai adoré.
Ah bon? Ah oui. Aussi? Alors bon, c'est unanime.
Attendez, soyons clairs. Un opéra de Thomas Hades ne transportera jamais autant que les Huguenots, la Gioconda ou les Pêcheurs de Perles. Sans être complètement transporté, c'est quand même, j'ai trouvé la partition absolument magnifique et avec des qualités, pour rebondir sur ce que disait Benoît tout à l'heure, que je rencontre très rarement dans l'opéra contemporain. D'abord, elle est variée. Et ça, pour moi, c'est une énorme qualité pour deux heures sans entracte. Il faut vraiment arriver à varier. Mmh. Surtout que, personnellement, j'ai une petite réserve sur le livret, que je trouve moins varié que la partition, quand même. Et que je trouve, au bout d'une heure et demie, a tendance à se répéter.
Il est trop bavard. Oui, oui.
Voilà. J'aurais peut-être... Le livret, pas la musique. Oui. J'aurais peut-être élagué un peu dans le livret ou écrit autre chose. J'en ai eu un peu marre du livret au bout d'une heure et demie. Mais la musique est tellement fascinante que j'ai été... D'abord, elle est variée. Elle est extrêmement agréable à écouter pour le chant. Vous savez l'importance que ça a pour moi.
Bah, l'opéra, ça a une petite importance aussi, remarquez.
Voilà. En italien, ils disent la cantabilità. Et c'est exactement ça. C'est extrêmement agréable, je pense, à chanter pour les interprètes et à écouter pour l'auditeur. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, compte beaucoup. Et surtout, très rarement pour moi, à l'opéra contemporain, c'est une musique émouvante. J'ai été régulièrement ému par ce que j'entendais et ça m'a vraiment énormément impressionné. Et d'ailleurs, à propos aussi, pour rebondir ça, sur ce que disait Benoît tout à l'heure, je voudrais insister sur un point, c'est qu'aujourd'hui, il est de bon ton dans les théâtres de commander des opéras et après on les revoit jamais. Pour une fois, bravo à Alexander Neff, le directeur de l'Opéra de Paris, au lieu de commander un opéra à Thomas Hades, il a repris un opéra qui valait vraiment le coup d'être repris. Chapeau, c'est exactement ça que doit faire un compositeur et j'espère que ça fera salle comble tous les soirs.
Benoît.
Absolument. Un point que j'aimerais ajouter, c'est que pour la première fois, il incorpore, si je puis dire, de l'électronique dans sa partition. Oui. Parce que c'est vraiment, c'est presque il se présente quasiment comme un artisan de la musique. Il ne veut pas utiliser les trucs de la contemporaine, hein, pour le dire un peu vite. Hein,
ou alors les trucs de la contemporaine ancienne, genre ondes Martenot, quoi.
Voilà. Alors là, il utilise les ondes Martenot.
Ouais. Et très bien.
C'est magnifique. Qui personnifie, si on peut dire, que l'ange exterminateur, qui n'existe pas, hein, cet ange exterminateur. L'ange exterminateur, c'est
le fantasme collectif, oui.
C'est l'éléphant dans la pièce, quoi. Oui. Enfin, voilà. Mais c'est magnifique, parce que ces sonorités comme ça, très courbes, très, très étranges, presque telles londines.
Ou alors rauques, parfois.
Rauques, parfois, elles donnent une couleur et du piment à ce propos.
Alors, pour aller dans le sens de nos invités du jour, je signale que le public a beaucoup aimé aussi et beaucoup applaudi. Hein, donc, ce n'est pas une lubie de critique, hein, si on a aimé cette création de Thomas Hades, l'ange exterminateur. Tiens, on va écouter le précédent opéra du compositeur, La Tempête.
Come here, scream!
extrait de La Tempête de Thomas Hades, dirigé par lui-même à Covent Garden il y a quelques années de cela. L'une des réussites, enfin des causes de réussite, Christian Merlin, de cet ange exterminateur à l'Opéra de Paris, je ne l'ai pas précisé, côté Bastille, bien évidemment, c'est le travail de troupe. À la fin, au salut, on voyait les 15 chanteurs et puis le reste de la distribution qui était là, manifestement, absolument ravis, s'applaudissant, applaudissant le chef, l'orchestre aussi, mais je veux dire, plus que d'habitude, comme si ce travail-là avait été particulièrement soigné et réussi.
Heureusement, parce que c'est l'essence même de la partition, qui a pas mal de solos, bien sûr, mais pas tant que ça. Je pense, enfin, j'ai pas fait de statistiques, mais au regard de l'ensemble de la partition, il y a surtout du chant d'ensemble. C'est très madrigalesque, même, parfois. Et donc, il faut que tout ça s'agence et soit une forme de travail d'horlogerie ou d'orfèvrerie. Et ça marchait du tonnerre de Dieu, au point que c'est difficile. Par exemple, je sais pas, si vous nous demandez de choisir tel ou tel, comme vous le faites parfois dans la distribution, ça, c'est fort difficile, parce que ce qu'on retient, c'est effectivement un ensemble.
Et les 15 sont là tout le temps.
Ah oui, les 15 invités, mais il y a 21 solistes en tout. Et il y en a qui ont parfois des choses pas négligeables à chanter. Mais par exemple, le couple d'hôtes, ceux qui reçoivent Nicky Spence et Jacqueline Stucker, ils sont absolument sensationnels, parce que en plus il y a l'incarnation, il n'y a pas que que la qualité vocale.
Puis la voix de la Lucia, c'est
incroyable. Ah oui, mais ça c'est
Richard,
c'est surnaturel.
Entièrement d'accord. Alors moi je les distinguerai quand même. Dans sans doute ce qui m'a la seule chose qui m'a vraiment gêné dans cette soirée, c'est l'intelligibilité du texte. Elle est très très variable selon les chanteurs. Il y a des chanteurs, je n'ai rien compris. Frédéric Antoun, que j'aime bien par ailleurs, de la première à la dernière note, je n'ai rien compris à ce qu'il disait en anglais. Le problème, c'est qu'il a à côté quelqu'un d'extraordinaire qui est Nicky Spence.
Oui. Je suis en train de me rendre compte de mon côté que là, on a parlé de l'œuvre, de la distribution, mais pas encore de la mise en scène. En général, on commence toujours par la mise en scène. Alors quand même, Benoît, parlons-en.
Bah, écoutez, Calixto Bieto, on peut aimer ou ne pas aimer. On peut d'ailleurs ne pas aimer certains spectacles parce que parfois il y va fort, hein, dans la provocation,
dans
le trash.
Ou l'hémoglobine.
L'hémoglobine, l'utilisation de divers fluides.
Corporels.
Divers et variés, corporels. Là, il y en a un petit peu
d'ailleurs.
Mais on sent bien qu'en fait, il a quand même voulu viser juste, si je puis dire. Alors, d'une part, il est servi par un décor quand même très impressionnant. C'est ce grand décor de foyer tout blanc, mais oppressant d'ailleurs, en sa blancheur aristocratique ou bourgeois. Il l'utilise comme un espace à jouer extraordinaire, avec un engagement physique, mais plus que physique, presque dans leur chair, hein, des chanteurs, qui se prêtent au jeu d'ailleurs de manière stupéfiante. Enfin, je pense qu'il y a eu quand même un travail très très impressionnant, de très longues séances. Enfin, moi je trouve qu'il n'y a rien à jeter en son geste, qui est vraiment très juste.
Et puis c'est techniquement très travaillé.
Alors, en plus, il n'a pas cherché à faire du Bunuel, quoi. Bunuel avait sa propre grammaire. Ça n'aurait pas eu de sens de faire la même chose, parce que Bunuel avait un cadrage très serré sur les personnages. Ici, on est vraiment dans le grand angle, en fait. Mais on arrive à voir des choses complètement en fond de scène, et Dieu sait que la scène de Bastille est profonde. Et moi, j'ai vraiment été scotché.
Christian.
Oui, c'est du grand Bieto, parce que c'est quelqu'un qui, de toute façon, travaille beaucoup, mais parfois, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, il se laisse aller à ses facilités qu'il a, et il fait ce qu'on attend de lui, qui est du trash un peu provoque. Ouais. Alors que là, pas du tout, c'est tenu. Et alors, quand il fait quelque chose de tenu, c'est vraiment remarquable. Et même s'il ne fait pas du Bunuel dans la grammaire, comme disait Benoît, dans la lettre, il le fait quand même dans l'esprit. Parce qu'on a ce côté subversif, corrosif, un peu insolent, et qui va assez loin, finalement, pour creuser les pulsions, les instincts de chacun. Et il ménage une progression. Ça, c'est très habile aussi, parce que...
C'est dans la partition aussi.
Bien sûr, voilà. Et c'est pour ça que tout ça colle, c'est pour ça que ça marche.
Richard.
Très, très, très bien fait. C'est exactement ce qu'il sait faire, en fait. Parce qu'en fait, la cuvette de chiottes qui est exaspérante dans un bal masqué de Verdi, là, elle a sa place.
Oui, évidemment, oui.
Donc,
oui.
Surtout que dans un bal masqué, il n'y en avait pas une, mais il y en avait 12. Donc là, tout est...
C'est ce qu'il a fait connaître.
Voilà, c'est ce qu'il a fait connaître. Oui. C'est ce qu'il fait très bien. Il le fait.
C'est intéressant ce que vous dites. C'est vrai qu'on n'a pas toujours l'habitude, finalement, d'adapter, je dirais, l'esprit de l'œuvre aux caractéristiques particulières de chaque metteur en scène. En effet, avec quelqu'un d'aussi délirant que Bieto,
Ito, autant donner une œuvre délirante.
Il faut un fond d'âpreté, en fait.
Ben oui, de la violence. Il faut de la violence.
Le ton.
Bon, un dernier mot sur ce spectacle, parce que sinon je referme le banc. Si tout le monde est d'accord, j'ai l'impression qu'on met 5 casques. Non, enfin, moi,
Oui. Si on doit mettre un 5 un jour, c'est aujourd'hui.
Oui, c'est ça.
Pour l'ange exterminateur, The Exterminating Angel de Thomas Hades, mise en scène donc de Callisto Biehito. Je vous dis pas les membres de la troupe, il y en a trop, vous l'aurez compris, mais ils sont globalement et collectivement absolument formidables. Et c'est à voir à l'Opéra de Paris, côté Bastille, jusqu'au 23 mars. Et je vous signale qu'il y aura une diffusion France Musique le samedi 20 avril. Extrait de Dante de Thomas Hades, dirigé par Gustavo Dudamel avec l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles, comme quoi Dudamel aura été quand même présent musicalement dans cette émission. Merci à Benoît Fauché, Christian Merlin, Richard Marté, mais aussi Maud Nourry, Olivier Guérin, Manon Houssin et Louise Hilerito. D'autres épisodes du Casque et l'Enclume à retrouver sur le site de France Musique et sur l'application Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.